autre conflit entre Israéliens et Palestiniens par Laurence Jay. Photojournaliste, Laurence Jay a débuté son métier en 2013, en commençant par la Syrie, puis ce fut la Centrafrique. Son travail fut rapidement remarqué. Elle travailla avec de nombreux journaux et magazines. Elle présentait à Visa, en 2016, à Perpignan, une exposition singulière, sensible, dont le sujet est toujours d'actualité, au trouble, l'autre conflit entre Israéliens et Palestiniens. L'occasion de parler de ce travail, ainsi que de son attachement à ce métier. Née en 1984, Laurence Jay obtint le prix Polka Magazine en 2017, puis le grand prix du festival Les Femmes s'exposent en 2020 pour son reportage sur les membres de Daesh en prison. En 2021, ce fut le World Press Photo. Laurence Jay, à quel moment avez-vous réalisé ce travail sur le partage de l'eau ?
C'est un reportage que j'ai réalisé en 2015 et 2016 sur le partage de l'eau en Israël et Palestine.
Le partage, certaines façons de parler du partage.
Voilà, j'ai essayé de faire une description de la situation en rapport à donc l'eau qui est nécessaire à la vie, côté palestinien de Cisjordanie, côté palestinien de Gaza et en Israël, parce que c'est un seul et même sol et je voulais voir comment c'était géré tout ça. Donc pour Gaza, pour donner l'exemple, c'est vrai que beaucoup de structures liées à l'eau, pardon, ont été détruites pendant l'opération Border Protection en 2014. L'Israël, qui est une armée très propre, qui vise vraiment bien, d'après ce qu'ils disent, je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'était par erreur, que ces structures, ces châteaux d'eau comme celui-ci, a été détruit. Mais on peut se poser des questions. C'est vrai qu'à Gaza, la situation liée à l'eau est dramatique, plus qu'en Cisjordanie, je trouve, en ayant fait ce sujet. Et en Israël, la situation est plutôt positive. L'eau est bien gérée de ce côté-là.
Quelles sont les données par rapport à la consommation d'eau? Et l'eau vient d'où? Et qui la donne à qui? Est-ce que c'est Israël qui doit livrer l'eau? Ou comment ça fonctionne?
C'est assez compliqué. En fait, l'eau, le gros réservoir, c'est le lac de Tibériade et la vallée du Jourdain. Donc la vallée du Jourdain est située en Palestine, c'est Jordanie. C'est divisé en trois zones, A, B et C. Et là où il y a beaucoup d'eau, c'est souvent en zone C, donc sous contrôle total israélien. Donc c'est eux qui doivent gérer ça. Sauf que du coup, il y a beaucoup de colonies, ils font un puits, ils creusent plus profond. Du coup, ça assèche les anciens puits palestiniens. Sauf que pour construire un autre puits, il faut demander une autorisation aux Israéliens et c'est rarement accepté en fait. Du coup, il y a des pénuries d'eau, il y a de l'eau, hein. C'est pas non plus comme à Gaza, mais il y a quand même des pénuries d'eau, notamment pour l'agriculture dans la vallée du Jourdain. Alors que si vous voulez, il y a des grandes étendues de palmiers qui sont gérées en Cisjordanie par les colons israéliens qui sont pionniers en agriculture, il faut quand même le dire, dans les zones désertiques. Ils font des prouesses technologiques, mais du coup, c'est vrai que quand on voit la colonie verte, verdoyante, les cultures verdoyantes, comme ces beaux palmiers, et à côté, un paysage un peu plus désertique. Le problème, c'est que j'y suis allée une année où c'était la jachère, donc il n'y avait pas de culture. J'ai pas pu faire la comparaison, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une scission entre les deux côtés. C'est assez visuellement intéressant de le montrer, je trouve.
Est-ce que c'est pas finalement une forme de guerre de l'eau larvée?
Je pense que c'est un moyen peut-être de pression. Alors, dire moyen de pression, je ne suis pas dans la tête des Israéliens, des politiques. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'eau est plus importante. C'est-à-dire, on donnera plus de l'eau à un colon, par exemple. Alors que la colonie, c'est Jordanie, c'est pas légal au regard du droit international. Mais pourtant, il y a un accès à l'eau, tout est bien fait. C'est ouvert. Il y a le puits qui est avec des barbelés autour, qui permet d'alimenter tout un village sur une colline verdoyante. En tout cas, c'est très ennuyant pour les Palestiniens. C'est-à-dire que ce partage de l'eau, ils payent l'eau plus cher, ou alors ils payent pas l'eau quand c'est des camps de réfugiés. Je suis pas sûre qu'ils payent tout le temps leur facture d'eau non plus, hein. Bon, voilà. Mais c'est chiant de pas avoir l'eau comme on veut, même à Gaza, pas avoir l'eau courante. L'eau est polluée, l'aquifère est totalement pollué, et des gamins boivent cette eau-là qui est crade. C'est une pression quand même. L'eau, c'est la vie, quoi. Donc c'est une pression qui est vraiment constante, qui est ennuyante. On s'habitue à tout, ils s'habituent, hein, tous, hein, mais il y a quand même des conséquences sanitaires qui sont présentes. Et je pense que c'est un moyen de pression, peut-être pas volontaire, mais forcément, si on donne plus d'eau à un côté, c'est normal qu'il y ait des conflits. Un Abyss Salet, ils manifestent pour récupérer leurs sources et leur territoire, et contre l'occupation, tous les vendredis. Ils sont là à manifester depuis 2009. Et la source, effectivement, quand les colons vont se baigner, ils y vont avec l'armée. Voilà, c'est à moi, c'est à toi. Enfin, c'est une guerre sans fin, quoi. C'est mon territoire, non, c'est le mien, c'est écrit là. Bref, pardon, je simplifie. Mais... Alors, c'est un manifestant, le vendredi, qui à Nabi Saleh, donc une ville près de Ramallah, qui est située en Cisjordanie, en face de la colonie Al Amish, où je suis allée aussi. J'ai toujours fait le contre-champ de chaque photo. Bon, j'ai pas mis de photo parce que je peux pas tout mettre, mais j'étais dans la source avec les colons. Et ils manifestent, donc eux ils lancent des pierres. Et en face, ils vont balancer du lacrymo et ils tirent à balles pas réelles et à balles réelles. Bon, ils m'ont tiré dessus aussi, accessoirement parlant. Heureusement, je me suis accroupie par terre. Mais bon, bref. Donc là, c'est tous les vendredis. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, hein, depuis 2009. Donc c'est vraiment des manifs contre l'occupation et notamment contre l'eau, pour récupérer leurs sources.
Là on voit bien, puisque on a les deux côtés. Hein. Comment vous travaillez? Comment vous arrivez là? Vous partez de Paris, vous prenez votre avion, vous vous posez, vous allez là-dedans. Comment vous y allez? Comment vous passez de l'un côté à l'autre? Comment vous retournez chez les uns? Comment vous retournez chez les autres?
Je m'intègre partout, avec avec tous les côtés, tout le temps. Même je parle avec des gens de Daesh. Donc c'est pour vous dire que j'ai besoin de voir tous les côtés pour comprendre moi-même.
Oui, mais tout le monde n'a pas forcément envie que vous veniez forcément voir ce qu'ils font.
Après, moi, je suis un poisson, je m'adapte bien. Je suis, comment on dit, un caméléon ou je sais pas. Non, mais en fait, tout simplement, je suis avec les manifestants, mais le lendemain, je suis avec un autre fixeur. Et je vais à la colonie et je raconte que je fais un truc sur l'eau, sur l'environnement. Je raconte pas que je couvre les deux côtés, sinon les colons, je peux pas aller leur parler, mais j'ai pas tout dit non plus, mais j'ai pas menti.
Une autre?
Le château d'eau, peut-être.
On va voir.
À Gaza, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant l'opération Bordure Protectrice de l'été 2014, beaucoup de structures d'eau ont été détruites, notamment ce château d'eau qui s'est situé à Khan Younes dans la bande de Gaza. Et en fait, beaucoup de châteaux d'eau sont détruits comme ça par le bombardement ou par l'opération terrestre de l'armée israélienne. Bon, on peut se poser des questions parce que c'est vrai que c'est une armée qui cible très bien, qui a des missiles très performants. Il y a eu beaucoup de civils tués pendant cette guerre et notamment ce château d'eau. On peut se demander si c'est pas stratégique de viser ces structures d'eau. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Enfin, du coup, ils sont obligés de reconstruire un autre château d'eau plus loin. Enfin, et ça, j'en ai vu beaucoup. C'est le plus visuel, c'est celui-là que j'ai gardé. Parce que bon, il était majestueux, par terre, couché. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé celui-là.
Celle-ci qui était tellement étonnante comme photo aussi.
Le château d'eau, c'est le même en fait. Et là, c'est la mosquée aussi qui a été détruite. Je pense que c'est un gros pélos qui est tombé. Je pense que c'est de l'aérien, ça. Je pense que c'est un bombardement aérien, ou c'est même sûr. Et c'est vrai qu'à Gaza, beaucoup de châteaux d'eau ont des gros trous. Enfin, c'est assez. J'ai d'autres photos de châteaux d'eau qui sont assez parlantes pour montrer ça. Mais il n'y a pas que les châteaux d'eau. Il y a les stations d'épuration. Beaucoup de choses. Le réseau d'eau a été très endommagé.
Comment est-ce que cette aventure du photojournalisme a commencé?
Par hasard. J'étais pas du tout passionnée par la photo. J'ai découvert la photo à 27 ans, je crois, à peu près. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de raconter les histoires plus facile que la télé où j'étais avant. C'est aussi un choix de facilité peut-être. Et j'ai découvert, je me suis passionnée très vite pour la photo. Puis du coup, surtout, les zones que je voulais couvrir, enfin qui m'intéressaient et qui me semblaient judicieux de raconter, c'était plus facile pour moi d'y aller avec une appareil photo qu'un autre moyen.
Pourquoi? Parce que l'image animée, par définition, est animée et que la photo est fixe, elle capte l'instant.
Fixe, c'est plus facile. Franchement, c'est peut-être un peu... Déjà, ça me parle plus. je réagis plus à une photo fixe, mais surtout parce que c'est plus simple, quoi. C'est moins lourd qu'une caméra, et qu'il y a moins de logistique à avoir, et que c'est la facilité aussi, hein. La passion est là, hein, mais au départ, puis j'ai rencontré un photographe, Patrick Chevel, que vous devez connaître, qui m'a donné envie aussi, je pense, de faire ce métier. En essayant de le connaître, savoir percer le mystère de cet homme qui couvrait les guerres, bah, finalement, je suis un peu tombée dedans. Et il y a les conflits, les révolutions arabes, notamment la Syrie. Et c'est, voilà, ça m'a marqué. J'avais envie de raconter ce conflit.
Voilà, c'est ça qu'il faut noter, c'est que vous vous lancez dans le photojournalisme, mais vous démarrez par la Syrie.
Par la Syrie, une semaine. Donc après, je continue la télé parce que j'avais un sujet à terminer. Et vraiment, j'ai commencé plutôt par la Centrafrique en janvier 2014.
Et depuis ?
J'ai couvert le conflit, pardon, en Centrafrique. Je suis retournée en Syrie après, à Alep, côté rebelle. J'ai couvert la guerre à Gaza rapidement. Ensuite, j'ai continué sur l'eau, donc à ce moment-là. Puis je couvre l'Irak et la Syrie encore. Et là, je viens d'Irak, là. J'étais un mois en Irak, je viens de rentrer.
Vous vous lancez, vous allez en Syrie, vous allez en Irak, vous allez en Centrafrique. Sur place, vous voyez les choses, vous les arrêtez dans le temps, vous faites vos photos. Mais vous, en tant que Laurent Sujet, vous vivez une situation, vous vivez avec les autres, on vous reçoit, on vous parle, on vous montre, vous photographiez. Il y a des bruits, il y a des sons, il y a des odeurs. Vous avez vos propres ressentis. Quand vous rentrez, il vous reste quelque chose. Comment ça fonctionne ?
Déjà, les bruits, c'est intéressant parce que c'est ce qui me manque en photo. J'aimerais les rajouter, les sons, puis la parole des gens que j'ai envie de garder. Les bruits, y a des bruits terribles que j'ai encore en tête. Tout le temps, là, l'Irak, ce mois-ci, était difficile avec les bruits. Beaucoup de bruits, beaucoup d'armes. C'était pas des positions fixes, c'est des offensives. Donc, c'est des attaques. Donc c'est des tirs, des obus, des bombardements de la coalition, des armes que je connaissais pas.
Il y avait un débat l'an dernier à Visa, ici, la table ronde L, qui était sur les femmes. Donc je vous pose la question, vous la connaissez, mais moi je vous la pose à l'inverse. Est-ce que c'est pas une chance finalement pour faire ce métier aujourd'hui d'être une femme ?
Il y a un mois je vous aurais dit ouais, ça nous donne un accès aux femmes, c'est vrai, oui. Mais là, ça me saoule. Peut-être une nana. J'ai eu des petits soucis en Irak. Et ça me pèse. Mais je pense que ça donne accès à pas mal de choses quand même. Notamment les femmes. Mais franchement, c'est une galère. Tous frustrés, ils sont tous relous. Parfois, ils osent des trucs pas bien. Et ça me pèse plus qu'avant.
C'est pour
ça. En mec, je ressemble pas du tout à une nana. Je ressemble à rien quand je suis sur le terrain. Et ça. Ça change pas. Il y a des mecs qui sont super relous, quoi. Excusez-moi le terme, ils sont très chiants, quoi, sur le terrain. C'est compliqué à gérer. C'est pas tous les jours, mais ça suffit pour dire lui, on veut aller avec lui sur un front, il est comme ça, c'est pas bon. Je pense que d'être une fille, il y a des avantages et des inconvénients, comme pour un mec.
Oui, c'est peut-être plus facile pour le Pakistan, l'Afghanistan ou ailleurs, pour rentrer dans les familles, pour faire des photos de l'intérieur.
Pour rentrer avec les femmes, c'est une évidence que c'est plus facile. Mais moi là j'ai pas travaillé sur les femmes donc ça m'a pas aidé mais je vais le faire je pense franchement ouais il y a quand même une grande frustration chez certains mecs donc c'est un peu problématique parfois mais je trouve que c'est un avantage quand même je m'en plains pas.
Est-ce que quand vous faites votre travail de photographe est-ce que vous avez une limite ? Est-ce qu'il y a des limites que vous franchirez pas ? Photographier telle chose ou telle ? Est-ce que vous le savez ?
Oui, je sais très bien, quand j'ai mes limites, moi je ne suis pas toujours journaliste, parfois je m'est arrivé d'intervenir plusieurs fois, dans la mesure du possible, quand je trouvais que c'était injuste, je deviens Laurence Jay, quoi. Je ne suis plus photographe, je ne suis plus journaliste, et je mets du poing sur la table. Non, mais ça ne change souvent pas grand-chose, mais il y a des choses...
Par exemple ?
Des gens qu'on va tuer, alors que c'est des enfants qui ne sont pas du tout des combattants, juste parce qu'ils ont pillé une baraque en Centrafrique. Et ou alors, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y en a, ils l'ont tué quand même. Mais je trouve que. Mais tout le monde, on est à un moment donné, on n'est pas toujours journaliste, je pense. Moi j'ai mes limites. Hein. C'est très clair.
Comment vous imaginez, quand vous prenez votre photo, vous êtes dedans. Bon, vous y pensez pas. Mais après, quand vous êtes rentré, quand vous êtes ici, comment est-ce que vous espérez que les gens reçoivent vos images ?
J'espère que moi, l'enquête là, que j'ai faite, j'espère que les gens vont la comprendre, que vont l'analyser, vont Je veux pas porter de jugement, je veux que les gens regardent par eux-mêmes. J'essaye d'être juste dans ce que je fais, toujours. Je suis même allée côté régime de Bachar al-Assad, alors que je couvre le côté rebelle. C'est pour vous dire à quel point j'essaie d'être juste. Mais j'ai très mal vécu par ailleurs. Mais j'essaie de comprendre, parce qu'en fait, j'ai besoin de comprendre la nature de l'homme. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, du gentil, enfin du gentil, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Enfin si, il y a des... J'ai besoin de comprendre le combattant de Daesh, comme j'ai besoin de comprendre le Peshmerga qui va désinguer Daesh.
Vous venez de le dire peut-être, alors quel, c'est ça votre moteur de photojournalisme, c'est l'homme, sa différence, sa diversité, son horreur, sa difficulté.
Il est tous pareil, sa diversité, c'est la nature humaine qui m'intéresse. Je veux comprendre, je crois, une curiosité dans la guerre, il y a le pire comme le meilleur, et c'est là qu'il y a les vraies émotions. Et ça, c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup. Et ça m'intéresse de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Mais j'ai aussi, surtout, comprendre, enfin voilà, naïvement dénoncer des choses, mettre en lumière certains trucs. C'est plutôt ça mon moteur. Mais j'ai une curiosité sur la nature humaine.
Est-ce que vous pensez qu'une image peut changer quelque chose ?
Ben, j'aimerais bien. Mais je crois pas. Hein. Franchement. Non, mais ça peut interpeller, mais au final, c'est pour les migrants, enfin, ça interpelle. Mais le petit Elan, bon. Mais la Syrie, quoi. La Syrie, il y a un gamin là qui a fait le tour du monde là il y a 2 semaines, Omran ou je sais plus qui, enfin, un petit garçon trop mignon. Mais ça fait 5 ans et tout le monde s'en tape royal. Personne ne fait rien pour ça. Les bombardements, c'est un truc horrible. J'étais dessous avec Garance Le Ken en 2014. C'est incroyable que c'est encore lieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a du chimie qui rajoute des trucs bizarres dans leur truc. Ça change rien en fait. Mais il faut quand même le raconter. Parce que peut-être qu'un jour ça changera. Je pense, j'espère. Sinon, de toute façon, dès que je me rends compte, mon métier sert à rien, j'arrête. Hein, je changerai de métier. Là, j'interpelle, j'essaie de raconter. Les gens ils réalisent qu'il y a des problèmes là. Ok, d'accord. Mais si je me rends compte qu'un jour ça change rien du tout, je. Ralasse, comme on dit. Je change.
Au-delà de votre devoir d'informer, est-ce que par moment il vous est arrivé d'avoir envie d'agir ?
Parfois, si, j'ai eu des moments où t'agis. Il y a un bateau qui arrive à Lesbos, les gens n'avaient pas vu, il n'y avait pas de secours. Donc le temps d'appeler, on était là avec 2-3 personnes qui étaient volontaires, on a aidé les gens à sortir. Je vais aider les gens à sortir. Je vais pas prendre les pauvres gens, quoi. Voilà. Mais d'agir, de combattre, jamais. Je prendrai les armes, jamais. Mais non, pas ça. Mais agir, d'aider, de bien sûr, oui, évidemment.
Est-ce que vous savez pourquoi une image devient mondiale, fait le tour du monde, des réseaux et partout ? Est-ce qu'on la fabrique ?
Non, on la fabrique pas. Je veux dire, c'est le photo, c'est les 2 images qui ont fait le tour pour moi là, cette année. C'est le petit Elan. Il dort. C'est comme s'il dormait. On voit pas que c'est un arabe ou c'est un irakien. Enfin, on voit qu'il dort. On s'identifie à lui. Et l'autre enfant, il calme tout le monde parce qu'il pleure pas. Il est choqué. Il s'essuie. Il regarde. Et hop, il est là. Et c'est pas un enfant qui pleure. Ça sera trop peut-être pour le. On va le voir. C'est trop larmoyant entre guillemets. Là, on voit un gamin qui pleure pas, quoi. Et on n'a pas vu ça, en fait. Il pleure pas, il est choqué, il est en train de pioncer, c'est un gamin, c'est l'absurdité du conflit, quoi. Qui ne se règle pas. Et les Russes, ils continuent de taper. Et le régime, qui n'en a rien à carrer, il bousille des enfants tout le temps, il vise les écoles, les hôpitaux, les mosquées, tous les lieux civils. Soi-disant, c'est des terroristes. Moi, j'étais là-bas, et j'ai pas vu un seul, à ce moment-là, terroriste, c'était que des civils. C'est absurde, c'est l'absurdité du monde. Et ce festival montre l'absurdité du monde. C'est absurde, en fait. Tu te rends compte, enfin, avec le recul, c'est presque pathétique. L'homme est pathétique.
Quel est votre projet aujourd'hui ?
Là, je continue l'Irak, je pense. Et je veux faire un truc en France, dont je ne vais pas parler parce que c'est off, mais je continue l'Irak. J'aimerais vraiment bosser sur Daesh. J'ai envie de comprendre le phénomène de l'État islamique. Je le comprends un peu en Irak. La Syrie, j'ai besoin aussi d'y retourner côté kurde, du coup, parce que je ne peux pas trop aller côté rebelle, c'est trop dangereux. Je veux comprendre comment... Après, la propagande, tout ça. Je veux continuer à bosser. Donc, je vais travailler avec l'armée irakienne. Je vais les suivre. Et les Peshmerga, quand ils vont commencer à prendre... Enfin, j'ai commencé là, les villages autour, mais ils avancent petit à petit. Je vais y retourner bientôt. Je pense que cette année, ça va être l'Irak et un truc en France que j'aimerais beaucoup faire, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais qui m'intéresse.
Ce son a été enregistré, monté, mixé, réalisé par Jean-Louis Vinet. C'est une production de www.aloeil.info. Vous pouvez retrouver tous nos sons, tous les podcasts sur www.a-l-oeil.info. Info au singulier. Là, vous aurez tous nos podcasts. Bonne écoute et à bientôt.